Vous avez vu que, sans forcément s'être concerté, on est un peu dans le même thème de l'attente. Je pense que lorsqu'il y a deux bougies allumées, on pense un peu à la même chose, que Noël approche. Alors c'est vrai que la plupart des gens, beaucoup de personnes, cette semaine, ont commencé à ouvrir le calendrier de l'Avent, en tout cas au moins un. Pour la plupart du temps, c'est du chocolat, mais bon, maintenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se font. Il y a des bières, il y a des sachets de thé, de tisane, il y a beaucoup de choses. Il y a quand même quelques éditions chrétiennes qui ont fait des calendriers de l'Avent où il n'y a pas de chocolat, mais une petite phrase ou un petit paragraphe sur la période de Noël avant la naissance de Jésus, jusqu'à la naissance de Jésus. Là, par exemple, la Ligue pour la lecture de la Bible a fait un calendrier de l'Avent pour les enfants avec des petits bouts d'histoire jusqu'à Noël. Voilà, on sait que Noël approche. Et cette année, comme l'année dernière, la période d'attente de Noël est un peu bousculée. Bousculée par le contexte sanitaire, incertain. Mais qu'attendons-nous ? Attendons-nous l'ouverture des cadeaux ? C'est peut-être pour ça que les calendriers de l'Avent et les couronnes ont été faites pour contenir l'attente des enfants, l'ouverture des cadeaux, je ne sais pas, ou alors la fête, les retrouvailles. Attendons-nous l'arrivée du Père Noël ? Attendons-nous simplement des moments conviviaux autour d'une table ? Ou attendons-nous la naissance de Jésus ? En fait, Jésus est déjà né. Et il ne va pas naître à nouveau le 25 décembre. Cette manière de voir les choses vient des religions païennes où l'on croit notamment à la réincarnation, où le temps est cyclique et où les dieux renaissent tous les ans. À Noël, et comme Nicolas l'a très bien dit, nous voulons simplement fêter la venue passée de Jésus, une naissance qui a bouleversé le cours de l'histoire de l'humanité, car Dieu est venu sur terre. Alors cela dit, nous sommes aussi dans une attente. La période de l'Avent nous rappelle que nous attendons quelque chose. Et cela a été aussi mentionné par Nicolas, nous attendons le retour du Christ. Nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous attendons le jour où ceux qui pleurent seront consolés, où ceux qui sont doux hériteront de la terre, où ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, comme le dit Jésus. Nous attendons cela. Patience, et comme l'a dit Nicolas, patience, et cela va se produire. Cette semaine, je réfléchissais au texte sur lequel j'allais prêcher ce matin, et je reçois un courrier du papa de l'enfant que ma femme et moi nous parrainons aux Philippines. Il y a quelques semaines, c'était son anniversaire et nous avions fait un petit don pour son cadeau. C'était donc un courrier de remerciement de la part du papa. Alors voilà, il y avait juste un petit paragraphe, enfin quelques lignes, mais voici un extrait de cette lettre. Merci beaucoup pour votre cadeau. Nous avons acheté du riz et de la nourriture. J'ai été témoin de l'immense joie de mon fils quand nous avons reçu ces cadeaux. Alors, l'enfant parrainé, il a l'âge d'une autre, le plus grand. Ces quelques mots m'ont à la fois touché et interpellé. Dans notre église, nous sommes bien sensibilisés au parrainage des enfants. Nous savons que les familles des enfants parrainés ont peu de revenus, que le riz et la nourriture sont des cadeaux très précieux. Mais recevoir ces quelques mots en période de Noël, une période où j'ai lu dans un article où un tiers des Français dépensent en moyenne 430 euros par personne pour des cadeaux qui sont du domaine de loisirs, eh bien cela m'a interpellé. Alors je ne partage pas ce témoignage dans le but de culpabiliser, mais au contraire d'encourager. En tant que chrétiens, nous savons et nous proclamons que Noël, ce n'est pas seulement et ce n'est pas avant tout la fête des cadeaux. Alors ce n'est pas interdit, hein. Je vais en recevoir, je vais en faire. Mais ce n'est pas que ça, Noël. Noël est aussi et surtout, pour nous, une occasion d'apporter un message d'espoir. Alors nous ne pouvons pas toucher le monde entier, à nous seuls, mais si nous pouvons déjà interpeller notre famille, notre entourage, nos enfants, les personnes que l'on côtoie, Dieu peut nous utiliser en ces circonstances. Notre comportement, notre regard sur le monde, notre attitude à Noël peuvent questionner des gens. Alors cette lettre que j'ai reçue de la famille de l'enfant parrainé m'a rappelé que les inégalités dans le monde demeurent. Nous sommes appelés à œuvrer pour aider les plus démunis et en même temps, nous attendons ce jour où ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Et donc ce sont sur ces paroles de Jésus que j'aimerais m'arrêter ce matin. Il s'agit des paroles que Jésus a prononcées dans son fameux sermon sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu. Et je trouve que cela est bien approprié pour la période de l'Avent, car c'est une période marquée par l'attente. Et dans ce sermon, en tout cas dans ce début de sermon, Jésus parle de promesses à venir. En fait, ce sont des promesses présentes qui concernent à la fois le présent et à venir. Et avant de lire le texte, je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que, comme cela nous a été rappelé, au bout de la patience, il y a cette chose que nous attendons et qui arrive. Merci pour tes promesses qui se sont réalisées, qui se réalisent aujourd'hui et qui se réaliseront. Donne-nous cette patience, donne-nous l'écoute nécessaire pour que cette attente ne soit pas passive, mais qu'elle soit active pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous lisons le tout début du sermon sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 6. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ce discours que Jésus prononce est connu sous le nom du sermon sur la montagne. Ici, ce sont les béatitudes. Jésus enseigne en particulier à ses disciples. Alors, plusieurs indices suggère qu'une foule se joint à eux, certainement au fur et à mesure. Mais il faut tout de même avoir en tête que Jésus parle à ses disciples. Il parle donc à des gens qui ont foi en lui, même s'ils ne comprennent pas tout, en tout cas pas à ce moment-là. Jésus parle à des croyants, d'autant plus qu'il leur dira juste un peu plus tard, dans le même discours, « Vous êtes le sel de la terre » et la lumière du monde. Il parle bien à ses disciples qui le suivent, qui le servent, et qui sont appelés, ils le sont d'ailleurs, à apporter la lumière de Dieu dans un monde de ténèbres. Ainsi, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle » et ensuite « Heureux ceux qui pleurent », etc., il ne parle pas à plusieurs catégories de personnes différentes, Ils ne parlent pas à d'une part ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, d'autre part ceux qui pleurent, etc. Ils parlent de ses disciples qui sont censés reconnaître leur pauvreté spirituelle, qui sont censés pleurer, et ils sont déclarés heureux s'ils le font. Alors pourquoi les disciples sont-ils censés pleurer ? Nous en parlerons dans quelques instants. Pour le moment, commençons par le début, le verset 3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Le premier mot de ce discours de Jésus, c'est le suivant, « heureux ». Et je sais que Paul aime bien le mot « vénard », ceux qui ont les chanceux. Ce mot qui déclare ces personnes heureuses est présent 10 fois dans ce discours. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Un homme qui monte sur une montagne et qui prononce 10 paroles. Dans la Bible, Moïse est monté sur une montagne et Dieu lui a transmis les 10 commandements. Il semble que Jésus souhaite nous faire comprendre qu'il est le nouveau Moïse. Il a été choisi et envoyé par Dieu pour conduire les hommes et les femmes vers l'Éternel. Et voici ce que dit le nouveau Moïse, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » En quoi est-ce une bonne nouvelle ? En général, on se déclare heureux quand les choses se passent comme nous le voulons, quand la santé est là, quand les finances sont là, quand les relations sont bonnes dans la famille, en société, au travail. Le problème, c'est que si c'est cela le fondement de notre bonheur, alors on ne sera jamais totalement heureux. Toutes ces choses font partie des circonstances de la vie et on ne les contrôle pas entièrement. Si notre bonheur est centré là-dessus, alors notre bonheur dépend des circonstances sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup d'autorité. La Bible nous invite à trouver le bonheur, à être heureux sur un fondement plus solide. Jésus déclare heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Alors mettons-nous un instant à la place d'un éventuel journaliste imaginaire du temps de Jésus qui fait un reportage sur les croyants. Ce journaliste se rend sur la montagne où Jésus se trouve et il interroge la foule avant que le maître ne commence à enseigner. Et voici la question qu'il pose aux passants. Quel genre d'hommes et de femmes Dieu bénit-il ? Quel genre d'hommes et de femmes Dieu bénit-il ? À votre avis, que répondrait la foule ? À mon avis, il dirait que Dieu bénit ceux qui respectent ses commandements. Dieu bénit ceux qui font de belles offrandes. Dieu bénit ceux qui respectent le sabbat. Si l'on pose la question aujourd'hui à des chrétiens, beaucoup répondraient la même chose. C'est une réaction logique. On a tendance à dire, par exemple, que Dieu bénit celui qui fait de belles œuvres. Dieu bénit celui qui suit les exigences du Christ. D'ailleurs, beaucoup de non-croyants pensent que si le paradis existe, ils y seront, parce que ce sont des gens bien. Imaginez maintenant la réaction des auditeurs quand Jésus prononce les premiers mots de son discours. Heureux. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. J'imagine qu'il a dû y avoir des réactions vives et des murmures à ce moment-là. Avec Jésus, le royaume des cieux ne se mérite pas. Il est simplement offert. Cependant, pour le recevoir, nous avons besoin de nous reconnaître indignes de ce royaume. Si l'on se reconnaît imparfait devant Dieu, alors le royaume des cieux est à nous. Si l'on a commis des erreurs ou même de graves fautes et que l'on accepte le pardon de Dieu, alors le royaume des cieux est à nous. Par contre, celui qui dit « Je suis quelqu'un de bien, alors j'ai le droit au royaume des cieux », celui-là compte sur ses propres forces et il ne pourra pas y entrer. Cela peut nous paraître injuste, mais c'est la justice de Dieu, c'est le message que Dieu nous adresse dans toute la Bible. On entre dans le royaume seulement par la grâce et non pas par le mérite. D'ailleurs, qui le mériterait finalement? La porte d'entrée est grande ouverte à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres vis-à-vis du Seigneur. Alors maintenant, vous vous dites peut-être, après tout, cela ne sert-il à rien de faire le bien? En fait, Jésus nous demande de faire le bien, mais ce ne sont pas les œuvres qui nous ouvriront les portes du royaume des cieux. Jésus nous invite à être des faiseurs de paix parce que lui-même nous a proposé de faire la paix avec lui. Le bien, c'est le fruit de la grâce. Et cela nous a été encore rappelé ce matin encore. Tout comme la patience est le fruit de la grâce, les bonnes œuvres sont le fruit de la grâce de Dieu. Mais la clé d'entrée du royaume des cieux, c'est la grâce et la repentance. Reconnaissons-nous pauvres spirituellement devant le Seigneur? Réjouissons-nous, car le royaume des cieux est pour cela. Maintenant, regardons la deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cette fois, c'est au futur. Ils seront consolés. Jésus parle de ceux qui pleurent. Mais à cause de quoi pleurent-ils, ceux-là qui pleurent? Pourquoi les disciples de Jésus sont-ils censés pleurer? Il me semble que si l'on prend la phrase dans son ensemble, il y a la question de la consolation à venir, la consolation de Dieu à venir. Et donc on peut dire que Dieu consolera ceux qui sont attristés par diverses épreuves. En fait, Dieu console ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la tristesse. Mais encore, dans le contexte global des béatitudes, il semblerait que les quatre premières béatitudes concernent notre relation à Dieu en particulier. Et les quatre prochaines béatitudes, les quatre dernières, concernent plutôt notre relation aux autres. Alors nous verrons ces quatre dernières béatitudes lors d'une prochaine prédication. En attendant, revenons sur les pleurs. Les quatre premières béatitudes sont très liées. Premièrement, Jésus déclare heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Ce n'est pas au futur, c'est déjà acquis, c'est au présent. Mais cette pauvreté spirituelle n'est pas juste un aveu. Ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle de notre péché. Cette pauvreté spirituelle en nous, si nous la reconnaissons vraiment, si nous la confessons réellement, alors elle nous fait pleurer. Elle nous fait pleurer. Plusieurs auteurs de la Bible ont exprimé ce genre de pleurs. Par exemple, voici ce que le psalmiste écrit dans le psaume 119. « Des larmes ont ruisselé de mes yeux, car on ne garde pas ta loi. » Se rendre compte que l'on attriste notre Seigneur, cela nous fait pleurer. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est reconnaître que nous attristons le Seigneur, que nous le décevons, nous lui faisons de la peine lorsque nous ne l'écoutons pas, lorsque nous ne faisons pas preuve de bienveillance, de patience envers notre prochain, envers les membres de notre famille, envers les frères et sœurs dans la foi. Nous lui faisons de la peine lorsque nous passons à côté de la vie, à côté de la vie et des œuvres qu'il a prévues pour nous. La repentance des disciples de Jésus mène aux pleurs. Mais le Christ ne veut pas nous maintenir dans un état de culpabilisation ou de culpabilité. Il déclare heureux ceux qui pleurent ainsi, car ils seront consolés. Non seulement Jésus nous pardonne, mais en plus, nous serons un jour complètement débarrassés de notre mauvaise nature et nous serons consolés. Et nous pouvons en être heureux dès aujourd'hui, parce que la transformation commence aussi dès aujourd'hui, grâce à son esprit. Troisièmement, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Là encore, Jésus va à contre-courant de la pensée humaine. Il prononce ces paroles à une époque où pour obtenir un territoire, il faut gagner une guerre. Lorsque Jésus était parmi le peuple d'Israël, les gens pensaient qu'il était le Messie qui allait reprendre le territoire d'Israël aux Romains par les armes. Mais dans la logique de Dieu, ceux qui hériteront de la terre, ce sont les doux et non pas ceux qui prennent les armes. Et ils sont heureux. Cependant, que signifie être doux dans ce passage? Il y a une suite très cohérente dans le discours de Jésus. Ceux qui sont pauvres spirituellement pleurent, car ils se reconnaissent indignes des bénédictions de Dieu. Et comme ils se reconnaissent indignes, cela les incite à l'humilité et aussi à la douceur. Le disciple de Jésus ne pense pas qu'il est mieux que les autres. Il est donc appelé à faire preuve de douceur et non pas d'orgueil. Pensons-nous être meilleurs que notre prochain? Alors là encore, il ne s'agit pas de se flageller moralement et de se dire que nous sommes tous nuls. Jésus ne veut pas que l'on s'apitoie sur soi. Il veut au contraire nous déclarer heureux et nous sommes forts grâce à lui. Heureux celui qui est doux, car il sait être humble, car il sait regarder l'autre comme un prochain aussi imparfait que lui, car il héritera de la terre, la nouvelle terre promise par l'Éternel. Enfin, nous arrivons à la quatrième, pas dernière, mais dernière pour aujourd'hui, quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Celui qui sait reconnaître sa pauvreté spirituelle, qui en pleure et qui fait ainsi preuve de douceur envers les autres, celui-là va aussi aspirer à un monde meilleur. Un monde meilleur, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par le mal qu'il y a dans le cœur de l'homme. Cela conduit aux injustices dans le monde. La corruption, les tromperies, les injustices sociales. Celui qui prend conscience de cela va avoir faim et soif de justice. Jésus le déclare heureux car il sera rassasié. C'est bien Dieu qui rassasie. C'est Dieu qui va régler le problème de l'injustice. Ce ne sont pas les hommes. La plupart des gens qui ont faim et soif de justice, mais de la justice, pardon, la plupart des gens ont faim et soif de la justice, mais de la justice selon eux-mêmes. Les disciples de Jésus sont appelés à attendre la justice divine, qui est bien meilleure que la justice humaine. Cette justice s'accomplira parce que le cœur de ses disciples sera totalement transformé. Dans son enseignement, Jésus s'est présenté comme étant la source de l'eau, la source d'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Il s'est présenté aussi comme le pain de vie qu'il faut manger pour ne plus jamais avoir faim. Celui qui sait reconnaître sa pauvreté spirituelle aura faim et soif de Jésus qui apporte la justice. Faim et soif de Jésus qui apporte la justice. En attendant, continuons de nous préoccuper des plus démunis et de ceux qui subissent des injustices. Alors pour conclure, en cette période de l'Avent, rappelons-nous que notre attente va au-delà du 25 décembre. Nous attendons le royaume des cieux, nous attendons la consolation, nous attendons un héritage, nous attendons d'être rassasiés de justice. Toutes ces choses sont promises par Jésus. Nous pouvons y croire avec assurance et nous en réjouir dès aujourd'hui. Pas la peine d'attendre le 25 décembre. Dès aujourd'hui, nous pouvons nous déclarer, pas nous déclarer, mais recevoir cette déclaration de Jésus, que ceux-là sont heureux. Prions donc afin qu'il nous ouvre toujours les yeux sur notre état de pauvreté spirituelle et disons-lui notre reconnaissance. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, Merci. Merci parce que c'est toi qui œuvres en nous. C'est toi qui nous ouvres les yeux sur notre pauvreté spirituelle. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, car c'est toi qui nous conduis dans cette démarche de nous reconnaître pauvres spirituellement. Pardonne-nous parce que nous ne sommes pas souvent dans cet état d'esprit où nous pleurons en regardant notre état, en regardant l'état du monde où le mal est présent dans le cœur de l'homme. Mais merci parce que tu ne veux pas nous écraser sous le poids d'une culpabilité. Tu as envoyé ton Fils qui a pris cette culpabilité, qui en a payé le prix. Merci parce que tu nous conduis vers ce royaume de justice. Aide-nous à marcher à ta suite, à témoigner de cette bonne nouvelle que tu déclares heureux ceux qui te suivent, tu déclares heureux tes disciples, parce qu'ils savent être doux, parce que nous avons faim et soif de ta justice et non pas de celle des hommes. Que cette période d'attente de Noël soit marquée par notre attente de ton règne et que ton Église soit rayonnante de cette attente et cette attente dans la joie que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.